Attention, vous êtes arrivés dans les monts de demain, une chronique du parc naturel régional pour parler d'urgence écologique et climatique, mais aussi, surtout, de transition, pour imaginer ensemble les monts de demain.
Le 22 novembre dernier, en lien avec la candidature du parc naturel régional des Monts d'Ardèche à la labellisation réserve internationale de ciel étoilé, nous sommes partis lors d'une rencontre Les Monts de Demain avec Olivier Blaise à la découverte des ciels sauvages. Nous avons pu, à cette occasion et à l'occasion de la projection de son très beau documentaire La Marche aux étoiles, lié à l'ouvrage du même nom, nous avons pu le rencontrer et échanger avec lui sur cette expérience et sur son rapport et sur notre rapport aux étoiles et au ciel nocturne. Olivier Blaise, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, marcheur et scénariste multimédia. C'est en tout cas ainsi que vous vous définissez sur votre site internet. On vous doit de nombreux ouvrages depuis de nombreuses années, des romans, des récits, des romans graphiques aussi. Vous avez été primé de nombreuses fois. Vous vous êtes lancé un nouveau défi avec la réalisation d'un documentaire en parallèle à l'écriture de votre ouvrage éponyme, La Marche aux étoiles, diffusé notamment en Ardèche à la fin du mois de novembre. Un documentaire qui revient sur votre longue marche en Californie à la recherche des dark skies, ces espaces affranchis de toute pollution lumineuse. Olivier, d'où est partie cette idée? Vous nous avez dit pendant la projection que c'était venu pendant le confinement.
Oui, en effet, le confinement, si vous vous rappelez, était propice à écrire des projets, à lire, à réfléchir. Et puisqu'on ne pouvait pas voyager physiquement, c'était même interdit, si je me rappelle bien. Et ben, nous avons écrit ce projet qui consistait effectivement en un double parcours, un volet pédestre où effectivement j'ai entrepris à pied sur un sentier mythique, le sentier des crêtes du Pacifique, le Pacific Crest Trail, d'aller à la rencontre des parmi les plus beaux ciels de la Terre, donc dans les déserts, dans les montagnes, très loin de la pollution lumineuse. Mais il y avait aussi un volet en van, automobile, où ma compagne Julie, avec notre petite fille Iris, eh bien, a fait le contraire, tout le contraire, c'est-à-dire a rencontré le ciel d'aujourd'hui, que j'appelle ébloui, c'est-à-dire où la pollution lumineuse, la pollution atmosphérique et d'autres sources de pollution créent une dégradation. Enfin, et surtout limite le nombre d'étoiles, puisque dans un ciel de mauvaise qualité, parfois on descend jusqu'à 5 étoiles visibles. Donc, on voulait voir le ciel de Californie, mais sous ses deux versants, un versant plus réaliste, qui est le ciel urbain, et un versant plus idéaliste, qui est le ciel des solitudes, des déserts et des montagnes.
C'est un film qui n'était pas forcément prévu, Olivier. Votre projet, à la base, c'était vraiment l'écriture de l'ouvrage La Marche aux étoiles. Et finalement, vous aviez la matière pour réaliser ce documentaire et vous vous êtes essayé à cette nouvelle discipline.
C'est exactement ça. Nous sommes partis sans du tout de projet audiovisuel, donc sans équipe de tournage, sans véritable matériel non plus, pas de drone, pas d'appareil très sophistiqué. Nous avions juste un appareil photo, un pied en plastique le plus léger du marché, un ou deux objectifs, et tout devait tenir dans mon sac à dos, avec la tente, avec le sac de couchage, avec tout le matériel de la randonnée autonome. Donc, effectivement, c'était avant tout faire des images, et au retour, nous avons dérushé, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a visionné toutes ces images et on s'est posé la question, est-ce que d'abord elles méritent d'être montrées? Est-ce qu'avec ces images, on peut raconter une histoire? Et là, comme la réponse était oui, et qu'il nous restait un petit reliquat de budget d'une fondation américaine qui nous avait soutenus, bien on s'est lancé dans cette autre aventure d'un documentaire audiovisuel de 56 minutes.
Ce qui est quand même nouveau pour vous, mais on sent que vous y avez pris beaucoup de plaisir. C'est quelque chose, une expérience que vous imaginez peut-être réitérer à l'avenir?
Oui, alors ce n'était pas complètement nouveau, parce que j'ai aussi développé des carnets de marche multimédia qui sont des sortes de portraits à travers photos, vidéos, donc son, ambiance, etc., et écrit, bien sûr, d'un site donné. J'en ai fait une soixantaine pour des régions, des villes, des agglos, tout un tas de commanditaires. Donc, j'avais déjà touché un petit peu à la caméra et au récit audiovisuel. Mais là, bien sûr, c'est une plus grande forme. J'espère pouvoir réitérer cette expérience-là, parce que j'ai pris effectivement un immense plaisir à toucher un peu à tout, non seulement à la réalisation, puisque j'ai tourné, mais ensuite au montage, que j'ai fait à peu près aux deux tiers, avant de m'entourer de professionnels, et même j'ai composé la musique. Donc c'est vraiment notre bébé, et c'est vrai que si on pouvait en refaire un demain matin, ben je serai partant.
Alors, on découvre dans ce documentaire, Olivier, qu'un tiers des habitants de notre petite boule bleue n'ont jamais vu la Voie lactée, que la pollution lumineuse sur Terre augmente de 10% par an. Des chiffres qui interrogent sur notre rapport à la lumière. Un rapport pour lequel il faudrait tout de même faire des changements. C'est en tout cas le message que vous délivrez avec ce documentaire et cet ouvrage.
Oui, la pollution lumineuse, elle a ceci de bon, si je puis dire, qu'elle est réversible. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur pour que la lumière s'éteigne et que des étoiles réapparaissent. Maintenant, il faut appuyer sur l'interrupteur. Et effectivement, tous les gens qui luttent pour préserver la nuit ou pour le retour de la nuit, ce que j'appelle des communautés de ciel noir qu'on rencontre aux États-Unis comme partout sur la planète, hein, il y en a aussi beaucoup en France, ça passe d'abord par la maîtrise de l'éclairage. Donc, un éclairage plus sobre, plus intelligent. C'est des choses toutes simples. Par exemple, vous vous rappelez peut-être que voici quelques années, étaient très répandues des lampadaires boules qui éclairent dans toutes les directions, donc y compris vers le ciel. Éclairer vers le ciel, ça ne sert à rien. Ça ne peut que gêner les oiseaux et les insectes nocturnes qui sont très perturbés par ces sources de lumière au sol. Donc, rabattre la lumière vers le sol, ça fait partie des bons gestes pour commencer de maîtriser l'éclairage. Mais il y a 1000 autres idées qui méritent d'être diffusées, comme celle-ci.
Ça joue sur de nombreux aspects de nos sociétés, la consommation d'énergie, la biodiversité, vous venez de le dire un petit peu. Et puis notre rapport aux étoiles, justement, vous parlez dans le documentaire également de noctalgie. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes vous-même un noctalgique, Olivier ?
Je ne sais pas si je suis un noctalgique. La noctalgie, c'est un néologisme que deux astronomes américains ont inventé, ils supportent bien la traduction, donc en français aussi c'est explicite, c'est tout simplement la nostalgie qu'on peut éprouver des nuits de notre enfance, qu'on peut supposer des nuits plus étoilées, avec moins de pollution lumineuse, avec aussi moins de prolifération satellitaire, donc des nuits qui ressemblaient à celles que l'homme contemple depuis des centaines de milliers d'années. Et ces nuits-là, effectivement, existent de moins en moins, ou existent dans des aires protégées qu'il faut atteindre et défendre. Est-ce que j'éprouve moins de la noctalgie ? Je ne pense pas, parce que je suis né dans une métropole, à Lyon. J'ai pas des souvenirs d'enfance de ces ciels magnifiques. Mais je pense que d'autres que moi, par exemple dans les magnifiques monts d'Ardèche, doivent l'éprouver de façon beaucoup plus aiguë.
On sent quand même avec ce documentaire que vous regardez ces cieux en Californie avec des yeux d'enfant et que ça va toucher chez vous une corde sensible assez profonde tout de même. Est-ce que je me trompe ?
En général, je pense que les artistes ont préservé leur part d'enfance et c'est la source qui les nourrit et qui nourrit leurs œuvres. Donc ça n'a rien d'étonnant que ce livre-là, qui était pour moi le 37e, donc a pris la suite de nombreux autres, puisse dans mes souvenirs ou dans mes sensations d'enfance. Avant tout, je suis un contemplateur, un admirateur.
Vous en avez parlé un petit peu, mais c'est vrai que le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, au sein duquel vous êtes intervenu, aimerait obtenir ce label Dark Skies ou réserve de ciel étoilé en français sur certaines zones, en tout cas de son territoire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble réalisable en dépit, quelque part, d'un déficit certain d'espace, contrairement aux zones que vous avez arpentées en Californie, où ils ont un avantage certain avec ces grands, grands espaces. Vous expliquez dans le documentaire que vous êtes parfois à plus de 80 km de zones éclairées. Vous pensez quand même que c'est réalisable sur un territoire comme le nôtre ici ?
Ah oui, je suis très optimiste sur cette candidature. D'une part parce que l'Europe et singulièrement la France sont très bien placées en termes de réserve de ciel étoilé. Et si vous obteniez le label, ça serait, je crois, la 7e ou peut-être même déjà la 8e qui l'obtiendrait en France. Donc, on sait monter des dossiers, on sait les défendre et notre territoire a vraiment tous les atouts pour décrocher cette qualification. Je ne pense pas que l'espace soit du tout un critère. En France, il y a des zones de superficie relativement réduites qui ont obtenu le critère, le label. Ce qui compte véritablement, c'est l'engagement des édiles, des politiques, l'engagement des populations, bien sûr la qualité du ciel noir, les actions déjà entreprises pour, par exemple, la maîtrise de l'éclairage, et aussi le projet d'ensemble. Ça ne doit pas être un portrait statique, je dirais, des efforts déjà accomplis et d'un ciel de qualité. Ça doit être l'aspiration à ce que ce ciel soit préservé à travers des actions pédagogiques. Moi, je suis très, très optimiste sur vos chances de décrocher le label.
Vous accompagnez la projection de ce film un petit peu partout en France. Est-ce que vous êtes surpris des retours, des échanges que vous pouvez avoir ensuite avec le public ? Et est-ce que ça nourrit aussi, évidemment, votre réflexion ?
Surpris, non. Chaque salle où je présente le film est différente. L'accueil est généralement bon. Les questions dépendent effectivement du degré de sensibilité à l'environnement de façon générale et singulièrement à la protection du ciel étoilé qu'on rencontre chez des individus. Certains sont déjà, particulièrement dans les zones rurales ou montagneuses, sont déjà au fait de ces questions, parfois ont un engagement au sein d'associations, voire militent pour l'obtention du label. Et d'autres, en revanche, découvrent ce sujet, sont très surpris, alors pas tellement de la pollution lumineuse, mais par exemple de ce qu'on peut appeler, je pense, la pollution satellitaire, l'artificialisation du ciel. Un astronome que j'ai rencontré à l'observatoire Leak au-dessus de San José en Californie me disait par exemple, c'est une citation que j'aime mettre en exergue de beaucoup de mes conférences, si les opérateurs de satellites, ceux qui envoient des satellites, réalisent leur plan sans rien y changer, d'ici une dizaine d'années, 9 points lumineux sur 10 que nous verrons au ciel seront des satellites en mouvement. Donc, au lieu du ciel d'aujourd'hui, qui est un ciel où les constellations sont encore reconnaissables, où les étoiles sont à leur place, imaginez plutôt une soupe de particules, des points blancs qui circulent en tous sens, ça changerait quand même beaucoup de choses. Donc, par exemple, cette citation, oui, provoque des réactions parce que les gens, souvent, n'ont pas conscience de la vitesse à laquelle des choses évoluent.
La marche aux étoiles est aussi disponible chez Actes Sud. J'invite les auditeurs à aller faire un tour sur votre site internet qui est très bien fait, sur lequel on peut retrouver toute votre bibliographie très riche, tout votre parcours et puis se tenir au courant de vos actualités. olivierblaise.com, on le retrouve très facilement. Et puis j'invite tous ceux qui le peuvent à visionner ce documentaire ou à se procurer l'ouvrage, je le rappelle, La marche aux étoiles, disponible chez Actes Sud. Merci en tout cas d'avoir pris quelques minutes avec nous, Olivier Blaise.
Merci à vous.
Et en attendant que la candidature du parc naturel régional des Monts d'Ardèche à cette labellisation réserve internationale de ciel étoilé soit effective et que l'on puisse sur certaines zones du territoire du parc se promener en regardant les étoiles sans pollution lumineuse, je vous invite à retrouver sur le site officiel du parc naturel régional des Monts d'Ardèche les épisodes de cette saison des Monts de demain. Rendez-vous en ligne sur parc-mont-ardèche.fr et vous retrouverez également sur le site les prochains rendez-vous. À très vite.
C'était votre chronique Les Monts de demain.